8. En se réveillant à 7h moins le quart, Janet Anderson constata que la place de son mari dans le lit était vide. Ça sentait le café dans la cuisine. Mais Ralph ne s'y trouvait pas non plus. En regardant par la fenêtre, elle le vit assis à la table de jardin, encore vêtu de son pyjama à rayures, en train de boire son café dans la tasse que Derek lui avait offerte à l'occasion de la dernière fête des pères. Sur un côté, on pouvait lire en grosses lettres bleues. « Vous avez le droit de garder le silence jusqu'à ce que j'ai fini de boire mon café. » Janet prit sa propre tasse, rejoignit son mari et déposa un baiser sur sa joue. La journée promettait d'être chaude, mais à 7h matinale, il faisait encore frais. C'était agréable.
« Tu n'arrives pas à oublier cette affaire ?»«
Aucun de nous ne va l'oublier, avant longtemps. »«
On est dimanche, un jour de repos, et tu en as besoin. » Je trouve que tu as mauvaise mine. D'après un article que j'ai lu dans le cahier santé du New York Times la semaine dernière, tu es entré dans le pays de la crise cardiaque.
C'est encourageant. Elle soupira.
Qu'est-ce qui figure en premier sur ta liste?
Interroger cette autre prof, Deborah Grant, par pur acquis de conscience. Je suis convaincu qu'elle confirmera que Terry a participé à cette excursion à Cap City. Mais il se peut qu'elle ait remarqué quelque chose de bizarre chez lui. Qui aurait échappé à Randall et Quaid. Les femmes sont souvent plus observatrices.
Janet trouvait cette idée douteuse, voire sexiste, mais ce n'était pas le moment de le faire remarquer. Au lieu de cela, elle revint à leur discussion de la veille.
Terry était bel et bien ici, et c'est lui le coupable. Ce qu'il te faut, c'est une preuve scientifique provenant de là-bas. Je suppose qu'un échantillon d'ADN est exclu. Mais pourquoi pas des empreintes digitales?
On pourrait passer au révélateur la chambre qu'il a occupée avec Quaid, mais ils sont repartis mercredi matin. La chambre a certainement été nettoyée et occupée depuis plusieurs fois même.
N'empêche, c'est possible, non? Certaines femmes de chambre sont consciencieuses, mais beaucoup se contentent de changer les draps et d'effacer les traces de verre sur la table basse, et hop, le tour est joué. Supposons que tu découvres les empreintes de Quaid, mais pas celles de Terry Maitland.
Ralph aimait cette excitation de détective amateur qu'il voyait sur le visage de sa femme. Et il s'en voulait de doucher son enthousiasme.
Ça ne prouverait rien, ma chérie. Howie Gold expliquerait aux jurés qu'ils ne peuvent pas condamner quelqu'un à cause d'une absence d'empreinte digitale, et il aurait raison.
Janet réfléchit.
D'accord, mais je continue à penser que tu devrais relever les empreintes dans cette chambre et essayer d'en identifier le plus possible. C'est faisable?
Oui, et c'est une bonne idée. Au moins, il pourrait se dire qu'il aurait tout essayé. Je vais me renseigner pour connaître le numéro de la chambre et essayer de convaincre la direction du Sheraton de déplacer les éventuels occupants. Je pense qu'ils accepteront de coopérer, compte tenu du retentissement médiatique que va avoir cette affaire. On passera la chambre au révélateur du sol au plafond. Mais ce qui m'intéresse surtout, ce sont les images de vidéosurveillance enregistrées pendant la convention et, étant donné que l'inspecteur Sablo, il dirige l'enquête au niveau de la police d'État. Ne revient qu'en fin de journée, et je vais devoir me rendre sur place moi-même. J'ai sûrement plusieurs heures de retard sur l'enquêteur de Gold, mais je n'y peux rien.
Sa femme posa sa main sur la sienne.
Promets-moi juste de faire une pause de temps en temps, Trésor. Profite un peu de ton jour de repos.
Il sourit, pressa la main de Janet et la relâcha.
Je n'arrête pas de penser au véhicule qu'il a utilisé. Celui dans lequel il a kidnappé le petit Peterson et celui qu'il a abandonné en ville.
L'Econoline et la Subaru.
La Subaru ne me tracasse pas outre mesure. Elle a été volée sur un parking municipal et on a connu un grand nombre de vols similaires depuis 2012 environ. Les nouveaux systèmes de démarrage sans clé sont les meilleurs amis des voleurs de voitures, car quand tu t'arrêtes quelque part en pensant aux courses que tu dois faire ou à ce que tu vas cuisiner le soir, tu ne remarques pas tes clés qui sont restées sur le contact. C'est facile d'oublier ton bib, surtout si tu as des écouteurs dans les oreilles ou si tu jacasses au téléphone et tu n'entends pas la voiture qui sonne pour te dire de les enlever. La propriétaire de la Subaru, Barbara Nearing, a laissé son bib dans le porte-gobelet et le ticket de parking sur le tableau de bord lorsqu'elle a pris son travail à 8 heures. Quand elle est revenue à 17 heures, sa voiture avait disparu.
Le gardien du parking ne se rappelle pas qui était au volant?
Non.
mais ça n'a rien de surprenant. C'est un grand parking sur 5 niveaux. Des gens entrent et sortent en permanence. Il y a une caméra à la sortie, mais les images sont effacées toutes les 48 heures. La camionnette, en revanche. Eh bien, quoi? Elle appartenait à un menuisier à temps partiel, un homme à tout faire nommé Carl Jellison, qui vit à Spuyten Kill, dans l'état de New York, une petite ville entre Poughkeepsie et New Paltz. Il a pensé à ôter ses clés, mais il en avait une de secours dans une petite boîte métallique sous le pare-choc arrière. Quelqu'un l'a découverte et a fichu le camp avec la camionnette. La théorie de Bill Samuels, c'est que le voleur a roulé jusqu'à Cap City, ou Dubrow, ou même jusqu'ici, à Flint City, et qu'il l'a abandonné en laissant la clé de secours sur le contact. Terry a volé la camionnette à son tour et l'a planquée quelque part. Peut-être dans une grange ou un abri quelconque en dehors de la ville. Dieu sait que les fermes inoccupées ne manquent pas depuis que tout a commencé à aller de travers en 2008. Ensuite, il a largué la camionnette derrière le Shorties, avec là encore la clé sur le contact en espérant que quelqu'un d'autre la volerait une troisième fois.
Mais personne ne l'a volée, conclut Janet. Donc, la camionnette est à la fourrière et tu as la clé, sur laquelle on trouve l'empreinte du pouce de Terry Maitland.
Ralph hocha la tête. En fait, on a des tonnes d'empreintes. Ce véhicule a 10 ans, et il n'a pas été nettoyé depuis au moins 5 ans, si on l'a nettoyé un jour. On a réussi à éliminer certaines empreintes. Jellison, son fils, sa femme, deux types qui ont travaillé pour lui. On a reçu les analyses jeudi après-midi, grâce à la police d'État de New York. Que Dieu les bénisse. Dans la plupart des États, on attendrait encore. Évidemment, on a aussi les empreintes de Terry Maitland et de Frank Peterson. Parmi celles de Peterson, 4 se trouvaient à l'intérieur de la portière du passager. C'est un endroit très gras, et elles apparaissent aussi nettement que des pennies tout juste frappées. Je pense qu'elles ont été faites sur le parking de Figgis Park, quand Terry a voulu obliger le gamin à descendre et que celui-ci a tenté de résister. Janet grimaça. On attend encore les résultats d'autres empreintes relevées dans la camionnette. Elles ont été envoyées mercredi. On aura peut-être des correspondances. Peut-être pas. On part du principe qu'une partie des empreintes sont celles du premier voleur, là-haut, à Spuyten Kill. Les autres peuvent appartenir à n'importe qui, des amis de Jellison ou des autostoppeurs qu'aurait pu prendre le voleur. Mais les plus récentes, hormis celles du garçon, sont celles de Maitland. Je me contrefiche du premier voleur. En revanche, j'aimerais beaucoup savoir où il a abandonné la camionnette. Après une pause, il ajouta « Tout cela ne tient pas debout. »
Le fait qu'il n'ait pas effacé les empreintes ?
Pas uniquement. Pourquoi voler cette camionnette et la Subaru pour commencer ? Pourquoi voler des véhicules afin de commettre cette horreur si vous montrez votre visage à tout le monde ? Janet l'écoutait avec un désarroi grandissant. Elle n'osait pas poser les questions qu'entraînaient celles de son mari. « Si tu nourrissais de tels doutes, pourquoi diable as-tu agi de cette façon ? Si précipitamment ?» Certes, elle l'avait encouragé, et peut-être était-elle en partie responsable de cette situation. Mais elle ne disposait pas de toutes les informations alors.
« Une façon de me dédouaner, » pensa-t-elle.
Et elle grimaça de nouveau. Comme si Ralph lisait dans ses pensées, et après presque 25 ans de mariage, sans doute en était-il capable, il dit « Ne va pas imaginer que j'ai des regrets. Il ne s'agit pas de ça. Bill Samuels et moi, on en a parlé. Il dit que tout n'a pas forcément un sens dans cette histoire. Pour lui, Terry a agi de cette façon parce qu'il est devenu fou. L'impulsion, le besoin de commettre ce geste, peut-être, même si tu ne m'entendras jamais présenter la chose de cette manière devant le tribunal, n'a cessé de monter en lui. Il y a déjà eu des cas semblables. Bill affirme que Maitland avait projeté de passer à l'acte et qu'il avait mis certains éléments en place. Mais quand, mardi dernier, il a vu Frank Peterson en train de pousser sa bicyclette avec sa chaîne cassée, tout son plan s'est envolé. Il a disjoncté et le Dr. Jekyll s'est transformé en Mr. Hyde.
« Un sadique sexuel pris de folie, » murmura sa femme. « Terry Maitland, coach T. »
Ça tenait debout sur le moment, et ça tient encore debout, déclara Ralph, d'un ton presque agressif.
Peut-être, aurait-elle pu répondre. Mais après, mon chéri, quand tout a été terminé, une fois son besoin satisfait. Vous avez pensé à ça, Bill et toi. Comment se fait-il qu'il n'ait pas effacé ses empreintes à ce moment-là, et qu'il ait continué à se montrer partout?
Il y avait quelque chose sous le siège du conducteur de la camionnette, dit Ralph.
Ah bon? Quoi?
Un bout de papier. Peut-être un morceau de menu à emporter. Ça n'a sans doute aucune importance, mais je veux l'examiner de plus près. Je suis quasiment sûr qu'il était enregistré avec les autres indices. Il jeta dans l'herbe le reste de son café et se leva. Mais surtout, je veux consulter les images de surveillance du Sheraton enregistrées mardi et mercredi dernier, ainsi que celles, éventuellement, du restaurant où ce groupe de professeurs dit avoir dîné.
Si jamais tu récupères une image nette de son visage, envoie-moi une capture d'écran.
Voyant son mari hausser les sourcils, Jenny ajouta
« Je connais Terry depuis aussi longtemps que toi. Et si ce n'était pas lui qui se trouvait à Cap City, je le saurais. »
Elle sourit.
« Après tout, les femmes sont plus observatrices que les hommes. Tu l'as dit toi-même. »
9. Sarah et Grace Maitland n'avaient quasiment rien avalé au petit déjeuner. Mais cela avait moins perturbé Marcy que l'absence de téléphone et de tablettes dans leurs environs immédiats. Pourtant, la police ne leur avait pas confisqué leurs gadgets électroniques. Mais après y avoir jeté un coup d'œil, les deux filles les avaient laissées dans leur chambre. Assurément, elles n'avaient pas envie de prolonger la lecture des commentaires sur les réseaux sociaux. Quant à Marcy, après avoir regardé par la fenêtre et aperçu les deux fourgonnettes surmontées de paraboles et la voiture de patrouille garée le long du trottoir, elle ferma les rideaux. Combien de temps allait durer cette journée? Et comment diable allait-elle l'occuper? Howie Gold lui fournit la réponse. Il lui téléphona à 8h15, étonnamment enjoué.
« Nous allons rendre visite à Terry cet après-midi. Ensemble. En temps normal, le détenu doit solliciter et obtenir un droit de visite 24 heures à l'avance. Mais j'ai réussi à avoir une dérogation. En revanche, je n'ai pas pu contourner l'interdiction d'avoir le moindre contact. Il est enfermé dans un quartier de haute sécurité. Cela signifie qu'il faudra lui parler à travers une vitre. Mais c'est moins horrible que dans les films, vous verrez. »
« Bien, » dit Marcy. Le souffle court. « À quelle heure ?»«
Je passerai vous chercher à 13h30. Apportez son plus beau costume et une jolie cravate sombre. Pour la lecture de l'acte d'accusation, vous pouvez également lui apporter quelque chose de bon à manger. Des noix, des fruits, des friandises. Et vous mettrez tout ça dans un sac transparent, d'accord ?»«
D'accord. Mais les filles, est-ce que je... »
Non. Les filles resteront à la maison. La prison, ce n'est pas un endroit pour elles. Trouvez quelqu'un pour les garder au cas où les journalistes se montreraient trop pressants. Et dites-leur que tout va bien. »
Marcy n'était pas certaine de pouvoir trouver quelqu'un. Elle rechignait à abuser de Jimmy après la soirée de la veille. Si elle allait demander au policier assis dans sa voiture devant la maison, nul doute qu'il accepterait de maintenir les journalistes à l'écart, non?
Tout va bien, dites-vous. Vraiment?
Oui, je le pense. Alec Pellet a fait éclater une piñata géante à Cap City. Et tous les cadeaux sont tombés sur nos genoux. Je vais vous envoyer un lien. Libre à vous de le partager avec vos filles. Mais je sais que si c'était les miennes, je le ferais.
5 minutes plus tard, Marcy était installée dans le canapé, entre Sarah et Grace. Elle regardait la mini-tablette de Sarah. L'ordinateur de bureau de Terry, ou un des ordinateurs portables, aurait été plus pratique, mais la police les avait confisqués. De fait, la tablette se révéla suffisante. Bientôt, toutes trois riaient et poussaient des cris de joie en se tapant dans les mains.
« Ce n'est pas juste une lumière au fond du tunnel, » pensa Marcy. « C'est un foutu arc-en-ciel. »